faut que tu comprennes que de mon point de vue, c'est juste que j'ai pas le droit d'avoir d'arbre de Noël les 11 autres mois de l'année. Soit que je dois avoir un arbre de Noël, c'est que d'un coup j'ai le droit d'en avoir.
Bah ouais, puis c'est pas tout, normalement ça se met en
début décembre.
Ouais, fin novembre, parce que tous mes collègues avaient déjà un arbre.
C'est vrai ?
Je vais hyper tard.
Mais pas aussi beau que le mien. Parce que moi, l'intérêt de l'espace, de là où j'habite, c'est qu'il fait plus d'1m70. Moi, je prends la catégorie 1m70 de mètre.
Moi, il reste plus d'appartement si je fais ça. Je suis obligée d'habiter dans les branches. Ce serait pas mal, remarque.
Bienvenue dans l'édition spéciale fête de Il faut qu'on parle, un podcast généralement consacré aux séries et à tout ce qu'elles nous inspirent. Pour cette fin d'année, que nous espérons joyeuse pour tous, nous avions envie de nous concentrer sur le positif et de partager nos plaisirs de 2015. Comme Dominique a été déjà engloutie par les préparatifs des fêtes, on fait ça entre filles aujourd'hui et on en profite pour ne pas parler que de séries avec notre productrice préférée, Juliette. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Et moi, c'est Yaël, présentatrice de ce podcast, actuellement possédée par un elfe de Noël. J'attendais un cri d'effroi, Juliette, mais non, ça ne te fait pas peur.
Non, au contraire.
Bon, c'est bien.
J'adore les elfes de Noël.
Je suis heureuse de l'entendre. En fait, je mens un peu, hein, parce que je suis tout le temps habitée par un elfe de Noël. C'est juste que je ne le laisse sortir de sa cage qu'un mois de l'année. Enfin, un mois de l'année. Bon, il y a l'elfe de Thanksgiving d'abord, et ensuite l'elfe de Noël. Puis après, il y a la chandeleur, il y a Pâques. Non, parce que moi, à Pâques, je cache des chocolats dans mon appartement. J'invite des amis pour faire un brunch dimanche avec des amis. Et je l'ai fait cette année avec 10 personnes. La moyenne d'âge, entre 30 et 50 ans. La moyenne d'âge était donc 35-40 ans. Et c'était des gamins. Ils ont couru dans un appartement, ils se sont battus.
Il y a quelques années, on avait fait ça avec des amis dans le bois de Boulogne. Un grand moment.
Dans le bois de Boulogne. Bon, ok.
Oui, dans le bois de Boulogne. Donc, non, il y a des endroits avec des forêts qui sont assez mignons et on avait caché des œufs et c'était chouette.
Donc, vous l'aurez compris, pour cette édition spéciale, nous avons décidé de n'avoir aucune règle de...
Aucune règle.
D'organisation, de logique dans la conversation. C'est plus libre que jamais. Mais bon, quand même, clairement, on parle des fêtes. On va parler ensuite de nos trucs préférés de l'année, mais je voudrais d'abord commencer par parler un tout petit peu de Noël en termes de pop culture. Moi, c'est une période que j'aime beaucoup aussi parce que j'ai appris dans mon enfance et dans mon adolescence à l'apprécier à travers la culture populaire, que ce soit les films qui parlent de Noël, que ce soit les trucs qui passent à Noël, les trucs qu'on fait à Noël. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu indissociable. Bon, tu diras, la pop culture est indissociable de tous les aspects de ma vie, mais notamment des fêtes. Et pour toi, Noël, Noël aussi, c'est une question de pop culture ?
C'est... un peu une question de peu de culture. J'avoue que j'ai pas une grande culture de Noël dans le sens où j'ai pas beaucoup fait les fêtes avec des sapins, etc. quand j'étais plus jeune. Mais c'est une fête que j'adore. J'adore Noël, j'adore tout, j'adore les décorations. Je peux rentrer dans les magasins et passer des heures à regarder les guirlandes et les boules de Noël. Parce que je trouve ça trop beau. Et je trouve que c'est une période très réconfortante. Enfin, j'adore trouver plein de petits trucs pour... décorer mon appartement, des thés de Noël, des chocolats de Noël, tous les petits trucs en rapport avec Noël, moi j'adore.
Bah écoute, moi aussi, et c'est vrai que le côté pop culture est pas innocent parce que je trouve que beaucoup de gens dans la vraie vie, que je connais, ils aiment pas trop Noël. Que ce soit parce qu'ils ont des familles désagréables, que ce soit parce qu'ils ont pas beaucoup de famille, que ce soit parce que pour eux, il y a un caractère religieux qui les dérange, qui vient de leur enfance. Enfin, il y a tout un tas d'éléments compliqués pour Noël. Moi, c'est vrai que c'est facile. J'ai toujours dit, je suis une païenne. Donc, même si je suis d'origine juive, je m'en fous que ce soit une fête religieuse. Noël, pour moi, c'est une fête culturelle, c'est une fête païenne. C'est le solstice d'hiver version moderne.
Complètement.
Et du coup, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont du mal et que l'amour des fêtes m'est vraiment venu de la fiction en fait. Je te dis, je pense que c'est encore un truc hyper américain. Les Anglais aussi sont très Noël. Je sais pas si t'as déjà été en Angleterre dans la période à partir d'octobre en fait, entre octobre et décembre.
Non, j'ai pas eu cette chance, mais j'aimerais beaucoup.
Non, parce que c'est, enfin, en fait, c'est un Père Noël qui a vomi sur le pays quoi. Comment te dire ? C'est juste une énorme boule de Noël, Londres, à partir du genre 5 octobre.
Ça doit être tellement
beau. Mais genre du 5 octobre, quoi. C'est hallucinant. Et du coup, ouais, c'est rigolo parce que je trouve que Paris est un peu triste. fait, je trouve qu'on a un Noël un peu plus design et classe dans la décoration, mais du coup, pas assez chaleureuse pour moi. Bien que j'ai un souvenir, très ému des vitrines de magasins de quand j'étais petite.
Oui, malheureusement, qui sont beaucoup, beaucoup moins jolies aujourd'hui, qui sont beaucoup plus axées sur les marques. Enfin, là, je suis passée à côté du bon marché. C'est encore très, très joli cette année. Enfin, surtout à l'intérieur, ils ont fait vraiment une déco très, très jolie. Mais par contre, les vitrines à l'ancienne, avec les petits automates et vraiment dans l'esprit de Noël, je trouve que ça a un peu perdu. Et c'est triste.
Ouais. Mais après, moi, ma première chose de culture populaire qui est liée à Noël, c'est la musique.
Ouais.
Je suis très musique de Noël, une fois de plus très américain, mais aussi parce qu'il y a toute une culture de la pop rock de musique de Noël en fait. C'est-à-dire que moi j'ai découvert il y a, je sais pas, une dizaine d'années des albums de Noël rock qui s'appelaient Maybe This Christmas, Maybe This Christmas Too, avec T-O-O écrit T-O-O, et ensuite le troisième s'appelle Maybe This Christmas Tree. Qui est un pauvre jeu de mots, mais qui fait trop plaisir. La première compile est notamment vraiment géniale. C'était un truc de charité, mais en fait, il y avait des groupes que j'adorais qui étaient dessus. C'est comme ça que j'ai découvert. J'ai découvert toute cette culture de pop rock, de faire des chansons de Noël. Et donc, j'ai ma playlist de Noël que j'ai fait il y a quelques années, que j'ai d'ailleurs, dont j'ai fait une version un tout petit peu modifiée, que j'ai mis sur Spotify. Et c'est vrai que ça, c'est un truc pour se mettre dans l'ambiance, quoi. Mais d'ailleurs, pour commencer cet enregistrement, j'ai commencé par te passer une chanson de Noël. Je t'ai passé Carol of the Bells, qui est un truc qu'on entend dans toutes les séries américaines de la Terre. Vous pourrez entendre quelques secondes de cette musique là tout de suite. On va la mettre au montage. Ça commence par la musique. Ensuite, il y a les bouquins, mais c'est plus les bouquins que je voudrais lire pour Noël. Je me dis toujours, je vais lire ça pendant Noël et le jour de l'an, parce que j'ai l'impression que je vais avoir du temps.
Oui.
Ce qui est complètement débile. Il y a aussi tous les bouquins que je demande à Noël, donc du coup, c'est une période où je pense beaucoup aux livres, mais j'en lis en fait très très peu. Et toi, tu lis des bouquins... toi, tu trouves le temps de lire des bouquins entre Noël et le jour de l'an ?
Non, j'avoue que c'est pas la période la plus propice. Mais je demande, par contre, des livres à Noël, tous les Noëls. C'est l'occasion d'enrichir ma bibliothèque. Et j'ai pas tellement de souvenirs... J'essaie d'y réfléchir en enregistrant ce podcast de bouquins qui me fassent penser spécifiquement à Noël. Et j'en ai pas tellement... À part peut-être Harry Potter. J'ai des magnifiques souvenirs de Poudlard dans les couleurs de Noël. Ils ont fait d'ailleurs un dîner de Harry Potter en Angleterre cette année. Ils ont vraiment reconstitué l'intérieur de Poudlard et de la grande
salle à manger. Je t'arrête de dire Poudlard, ça me perturbe.
Comment ? Ah oui, c'est vrai, on dit comment en
Hogwarts. Hogwarts.
Ok.
Hogwarts. Non, mais je le dis avec ce ton-là. Je sais que c'est terrible, mais moi j'ai découvert... En fait, j'habitais à l'étranger pendant toute la période Harry Potter, donc du coup... Moi, je n'ai entendu les mots français que beaucoup plus tard et je n'arrive pas à m'habituer et je m'excuse auprès de ceux qui pensent que c'est insultant de ma part de critiquer les mots français, mais je ne pardonnerai jamais au traducteur d'avoir trouvé le terme Poudlard. Mon petit frère essaie de m'expliquer depuis 10 ans pourquoi c'est une bonne traduction. Je ne suis pas d'accord. C'est Hogwarts. C'est tout.
Ouais, moi, je ne savais pas lire l'anglais quand j'ai commencé Harry Potter. Donc, voilà.
Tu es en train de me dire que je suis vieille.
Non, pas du tout.
Je sais pas, t'avais quel âge quand t'as commencé à lire Harry Potter ?
Oh, je sais pas, à la sortie française du premier livre, aucun souvenir précis.
Alors que moi j'ai commencé à la sortie du quatrième et j'avais 20 ans, donc effectivement...
Ouais, c'est ça, j'étais encore au lycée et j'ai appris à lire l'anglais après avoir fini mes études, quand j'ai vraiment eu envie d'apprendre l'anglais.
Ben moi, la littérature de Noël, c'est plus la littérature allemande, qui vient de la période où j'étais au pair en Allemagne, où on lisait des bouquins pour enfants. Et pour le coup, la période de Noël, on chantait des chansons, on lisait des bouquins. Les fêtes... Non, parce qu'en Allemagne, Noël, c'est un peu... c'est un peu le pays de Noël, en fait. L'Allemagne et l'Autriche aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de traditions que j'ai gardées qui viennent de là, notamment le fait qu'ils font des calendriers de l'Avent grandeur nature.
Wow.
Et du coup moi j'en ai un chez moi avec ma meilleure amie avec qui j'habite. En fait c'est pour chaque jour t'as une petite pochette avec des trucs à l'intérieur, et donc on est couvert de chocolat depuis le début, tu vois. On a du coup des boîtes en métal où on range tous nos chocolats, et qu'ensuite le soir on regarde une petite série, on ouvre la boîte et on mange les chocolats. C'est trop dur le mois de décembre.
Ouais.
au coin de notre bel arbre de Noël. Et non, et du coup, mais tu vois, c'est comme par hasard, même là je parle de série, parce que pour moi tout ça c'est tellement un truc. Enfin, c'est lié quoi, les plaisirs de la pop culture et les plaisirs de Noël, parce que pour moi Noël c'est partager des trucs, c'est faire des trucs qui font plaisir, c'est prendre le temps de se faire plaisir, et du coup j'associe ça aussi aux films que je regarde à Noël par exemple.
Ah oui, ouais. Bah moi ça a beaucoup été des films de. Enfin, ce que je me souviens spontanément, c'est tous les films d'enfants en fait. C'est genre Allô maman, Ici bébé, la suite, ceux où il y a les petits chiens qui parlent et qui vont fêter Noël. Maman, j'ai raté l'avion. Le Noël de Mickey que je regardais tous les Noëls.
Alors que moi c'est.
Tu vois, ma pop culture c'est niveau.
Alors que moi c'est maman qui veut regarder. Oui, j'appelle ma mère maman. Qui veut regarder les vieux ces films de Lubitsch et de Capra préférés ou deux trois Hitchcock qu'on aime bien mais pas les anglais. Alors mais nous on est nerd de mère en fille. Un certain nombre d'années. Moi j'ai la culture d'une nana de 65 ans de toute façon. du coup c'est beaucoup plus ces films-là en fait.
D'accord.
Du coup c'est beaucoup plus ces films-là et le fait que par exemple moi pendant des années le jour de l'an le soir du jour de l'an j'allais puis moi je fais pas la fête donc j'allais au cinéma.
Ah,
avec
d'accord.
une copine, sachant qu'on était désespérés il y a quelques années avec Léa en réalisant que maintenant il n'y avait plus de séance à 22h. Que le jour le 31 ouais décembre, la dernière séance était à 20h. Ce qui fait penser que le 31 décembre, il y a quelques années, on est allé voir Happy New Year ou New Year's Eve, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, le truc débile sur, avec tous les acteurs.
Oh, ah oui.
Qui se passe le jour de l'an où il y a Léa Michel qui joue dans un ascenseur avec Ashton Kutcher, il y a Robert De Niro qui est dans un lit d'hôpital, enfin c'est terrible. Sarah Jessica Parker qui court dans les rues de New York en cherchant sa fille. Mais c'est mauvais ce film. Mais alors ce qui est génial, c'est que Robert De Niro ne partage son écran qu'avec deux actrices, Halle Berry et l'autre que je déteste qui joue dans Million Dollar Baby et qui joue dans Boys Don't Cry.
Ah, Hilary Swank.
Swank. Yes. Oui, c'est ça, Swank. Et donc, Hilary Swank, et en fait, je me suis dit. En fait, le mec, il sort pas de son lit, puisqu'il est malade, et du coup, je me suis dit, je crois qu'il a dû écrire dans son contrat. Bon, alors, j'accepte de faire votre film de merde, à une condition, je vais être dans un décor unique, ce qui veut dire que j'ai un jour de tournage, et je n'accepte de partager l'écran qu'avec des femmes, enfin, des acteurs qui ont gagné un Oscar. Donc, Halle Berry et Hilary Swank, c'est tout! Ah, qu'est-ce que c'était nul. Oh là là, mais c'était drôle en même temps parce que c'était. Puis en plus, on l'a vu le 31 décembre, donc c'était vraiment particulièrement drôle.
Oui. Ouais.
Et non, l'année d'après, on a regardé Mandela, beaucoup moins drôle.
D'accord. Ok. On n'a pas les mêmes 31 décembre. Hein.
Oui, non, mais c'est vrai que moi j'ai des 31 décembre. Pas drôle. Non, et c'est vrai que moi j'aime bien, du coup, plutôt que de faire une fête, c'est vraiment un soir où j'aime bien regarder des films avec des gens que j'aime bien. Je me rappelle aussi d'une année où on a fait le 31 décembre à regarder l'épisode de The West Wing où Taxi Jay qui rentre dans sa famille et qui passe un week-end avec son père qui a Alzheimer.
Oui. Très bon épisode, mais pas très très joyeux non plus.
Bonne année! Mais pareil, le jour de Noël, c'est classique, tu vois, le 25, c'est classique pour moi de vouloir regarder des films qu'on aime, que ce soit avec mes parents, ma meilleure amie. Moi, une année, j'avais fait acheter des DVD à mon père pour Noël, pour qu'on regarde des films, et d'ailleurs, les DVD, d'ailleurs, je sais plus ce que c'était, mais l'autre, c'était Festen.
Oh là là.
Et le but, c'était... Ah, je crois que l'autre, c'était The Hours. Non, mais en fait, le truc, c'était... D'accord. Pour moi, le but, c'était... Que des trucs horribles. Et le but pour moi, c'est des films que j'aime et que du coup, c'est des moments que je partage où je montre un truc que j'aime vraiment à quelqu'un que j'aime.
D'accord, ouais. Ouais, nous, on regarde plutôt des Disney, mais bon.
Moi, je regarde des Disney toute l'année.
C'est pour ça.
Mais en même temps, j'ai pas une famille très traditionnelle en général, donc j'ai pas une famille qui a des goûts très traditionnels ou qui fait des trucs très traditionnels. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Mais non, je me rappelle d'un Noël où j'ai offert un recueil de nouvelles de Tolstoï à mon père. On a passé tout le 25 décembre à bouquiner puisqu'il est en Bretagne, donc il faisait froid et on était à l'intérieur. Et à un moment, on s'est lu des nouvelles de Tolstoï.
Wow.
C'est pas Noël,
ça ? Ça me fait rêver, ça, ouais.
Dans la petite cabane, parce qu'il habite dans une petite maison qui ressemble presque à une cabane sous la neige, avec le chien endormi devant le poêle, littéralement, parce que mon père a un poêle dans sa maison. Vu qu'il n'a pas d'électricité. Oui, tout va bien. C'est normal.
Ok.
Mais non, mais il y a des raisons pour lesquelles je suis comme ça. Hein. c'est vrai que moi j'associe ce truc de la pop culture qui est pas seulement joyeuse, mais par contre qui est des trucs que j'aime, parce que on oublie souvent, je trouve, que cette période, et là on sort un peu de l'idée de pop culture, hein, c'est juste parce que on s'en fout, c'est Noël, on fait ce qu'on veut. C'est l'idée que on voit souvent ça comme une, enfin il y a plein de gens qui voient ça comme une période contraignante. Tu sais, tu dois voir des gens que tu n'as pas envie de voir, tu dois faire un truc que tu n'as pas envie de faire, tu dois dépenser de l'argent, il y a des mondes partout dans les boutiques, tout est chiant, blablabla. Mais en même temps, tous ces efforts, toutes ces contraintes, elles sont toutes liées au fait de faire plaisir à d'autres gens, en fait.
Oui, ouais, c'est ça que je trouve beau, moi. J'adore passer du temps à réfléchir aux cadeaux pour les uns pour les autres. Et puis, tu peux toujours voir les choses de manière positive.
Ouais.
Tu vois, moi je vois pas tous les gens autour de moi qui me poussent dans la foule parce que je vois que les décorations de Noël. Moi, je regarde le plafond.
Donc toi aussi, tu as vu.
Non, moi, je réenchante le monde en permanence.
Ouais, non, mais je suis d'accord. Non, mais en plus, je suis d'accord parce que le cynisme est un poison qui nous tue lentement et à petit feu. Il y a assez de raisons de s'énerver dans le monde. Mais c'est vrai que moi, c'est pareil. Moi, je vois tout le monde et je me dis, tous ces gens-là sont en train d'acheter des trucs pour d'autres gens. Quoi. C'est cool.
Bah ouais, c'est beau.
Et puis alors, moi qui passe beaucoup de temps en Allemagne, Noël, c'est magique, quoi. Déjà, les décorations sont partout.
J'imagine.
Des marchés de Noël à tous les coins de rue. Bien que moi, j'ai vécu à Stuttgart, qui est le plus beau marché de Noël. Donc, tous les autres marchés de Noël sont un peu moches à côté, je trouve. Mais même Strasbourg, même tous les autres. Il y a quelques endroits en Alsace qui sont magnifiques.
D'accord.
Mais c'est rare, des trucs aussi beaux. Et c'est vrai que ce côté des décorations, plein de gens qui sont là pour manger, boire ensemble. Enfin, je sais pas, mais ça n'empêche pas que ça crée aussi des choses terribles, Noël, comme les horribles épisodes de télévision consacrés à Noël.
Ah ouais, ça c'est dur.
Y en a qui s'en sortent bien.
C'est vraiment le passage obligé. Il y en a qui s'en sortent bien. Mais c'est ce côté un peu forcé souvent qui est... Ça, il faut qu'ils mettent des petits bonnets de Père Noël, qu'ils sortent la dinde. Et c'est un peu... C'est trop systématique en fait pour moi, pour être vraiment bien. Après, je sais pas, t'as des souvenirs de vraiment de bons épisodes de Noël ?
Bah, Buffy.
Ouais, bon,
pour changer.
Ok, tu marques un point.
Non, mais après, je me souviens de l'épisode de la saison 2 de Lois et Clark, qui s'appelle... Mon Dieu, j'ai oublié le titre. Mais en tout cas, qui est l'épisode 9 et qui est aussi le premier épisode réalisé par Dean Cain. Non, je ne suis pas une fanatique de Lois et Clark. Non, d'ailleurs, je me demande s'il n'a pas écrit plutôt que réalisé cet épisode. Et qui est un épisode où il y a un créateur de jouets qui s'est fait virer et qui du coup est aigri et il a créé un nouveau jouet. C'est des rats hyper moches qui dégagent un gaz qui rendent les enfants greedy, donc je sais même pas comment dire, envieux, qui ont envie de tout avoir pour eux, on va dire. Et les adultes, fait comporter les adultes comme des enfants gâtés. Et du coup, le moment où il y a Clark, donc enfin un Superman, sous l'emprise du truc, qui se bat avec Lois pour les M&M's et qui lui dit « Regarde ailleurs et aspire tous les M&M's ». Il y a des grands moments comme ça dans cet épisode.
Okay,
le moment où il utilise son rayon laser pour casser le talon de Lois pour qu'elle se casse la gueule. Donc voilà.
Tu me donnes envie de le voir.
Bah, c'est génial. Moi j'adore, mais bon, c'est Lois et Clark. Moi je continue à dire que même s'il y a des trucs kitsch les deux premières saisons, il y a un bout de la troisième. Jusque dans la troisième, il y a des trucs très très bien. Donc voilà.
Ouais.
Donc Lois et Clark, j'ai vu par contre l'épisode de Scorpion l'autre jour et j'étais là. Mais c'est n'importe quoi. Bon, tu me diras, Scorpion c'est n'importe quoi. Pourquoi je regarde cette série ? Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Mais non, voilà. C'est vrai que le problème en plus, c'est qu'il y a le côté, il y a Thanksgiving et ensuite il y a Noël et ils le font deux fois de suite. Et il y a le côté, moi ce qui me dérange toujours,
c'est ça.
Quand ils le font, quand le sentiment autour de Noël n'est pas authentique. Il y a des séries qui arrivent où ça a du sens dans l'épisode. Et puis il y a toutes les séries qui font semblant.
Ouais.
En même temps, dès qu'il y a un sapin et une chanson de Noël, je suis contente. En fait, ça intellectuellement je critique, mais en fait je suis en train de me rendre compte que si je suis honnête avec moi-même,
malgré tout,
je préfère que s'il n'y en a pas.
D'accord, ouais. Je sais pas si moi. Ouais, si, ça fait quand même plaisir de les voir. Non, ce qui m'énerve vraiment, c'est la diffusion française où, du coup, c'est Noël. Donc on ressort tous les épisodes des séries de Noël qui n'ont rien à voir avec les épisodes que tu viens de voir juste avant. Hein, déjà que les diffusions sont complètement. Erratique. Là, c'est wouhou! Et donc, ça n'a aucun sens. Là, on a regardé. Qu'est-ce qu'on a regardé? NCIS Los Angeles avec ma grand-mère. Et donc, ils nous ont passé l'épisode de Noël de la saison 6 et ensuite l'épisode de Noël de la saison 4. Ah, bon. Ok.
Bah, surtout c'est que Noël, quoi. L'épisode de Noël de la saison 6, c'est celui où Kenzie et Dick se mettent ensemble. Dans la saison 4, ils ne sortent pas ensemble.
Ils ne sont plus ensemble. Donc, c'est un tout petit peu
plus. Ils ne sont pas encore ensemble. Non, je sais, parce que je regarde NCIS Los Angeles. Depuis le début de la saison 5. Donc en plus, moi, j'ai pas vu la saison 4. Oui, je sais, je suis partie de ces gens fous qui regardent NCIS Los Angeles sans avoir vu le début. Donc j'ai même pas l'excuse. J'ai commencé, je peux pas arrêter. Je l'ai pris en cours de route.
Ok.
C'est pas grave. Mais j'arrête pas de parler de NCIS, en fait, dans tous les podcasts. À un moment, je dis que j'écoute. Que j'écoute.
Oui, en fait. Oui, il va falloir faire un spécial.
Non, mais j'écoute d'ailleurs, hein, parce que je regarde pas vraiment. Je fais le show, je dors de temps. Ça n'empêche pas que l'épisode de Noël de The West Wing, par exemple, saison 1, est un très bel épisode. Tu te souviens de ça ?
Ouais. Alors attends, j'essaye de m'en souvenir.
C'est celui où il y a un sans-abri qui est mort dans le manteau de Toby.
Ah oui.
Et ça se termine par Little Drummer Boy. Pa-da-pa-pa-pa. Tan-tan-tan-tan-tan-ra-ra-pa-pa-pa. Tu vois, la chanson dont je te parle. Tu vois ce que c'est ?
Ouais, ouais. Tout à fait. Oui. Effectivement, très bel épisode. Ouais.
Et donc voilà. Et donc la fin est ultra cliché parce que tout d'un coup, ils sont tous debout les uns à côté des autres. C'est à la fin, ils rejoignent tout le monde devant le sapin les uns à côté des autres. Et ça, c'est juste à. Non !
Ouais.
Vous y étiez presque, les gars, mais là, c'est raté. Mais pendant ce temps-là, t'as Toby et t'as. Il y a un truc très beau, c'est Mrs. Dunningham qui demande à Toby si elle peut l'accompagner. À l'enterrement, oui, parce que t'apprends en fait que ses deux fils sont morts la veille de Noël.
Exact.
En fait, dans l'épisode, il dit c'est Charlie qui demande pourquoi est-ce qu'elle est triste. Mm-hmm. Et lui dit en fait, elle avait des frères jumeaux et du coup, ils ont toujours tout fait ensemble et ils sont partis ensemble et ils sont morts à peu près à la même période la veille de Noël.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est triste. Bon, mais de toute façon, surtout les Mrs. Dunningham, j'ai quand même d'en parler, j'ai envie de pleurer. Bon, passons à autre chose, passons au truc drôle. Donc, je voulais qu'on profite de cette occasion après avoir parlé de Noël pendant 25 minutes, ce dont vous n'aviez rien à faire, je suis d'accord. Mais on s'en fout, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Et puis surtout, c'est l'occasion de se parler, toi et moi, Juliette, on s'écrit tout le temps, mais on ne se parle pas souvent.
Donc, c'est vrai.
Je voudrais qu'on parle des trucs qui nous ont plu en 2015, parce que c'était quand même une année de merde à plein de niveaux.
Ouais.
Et donc, je voudrais qu'on parle quand même des trucs qui nous ont plu, et notamment des trucs de pop culture. En fait, c'est un peu la liste de Thanksgiving, tu vois, les trucs pour lesquels on est grateful, on est thankful.
Ouais.
Mais là, on fait ça pour Noël. Je préfère plutôt que les top 10 qui traînent un peu partout. D'ailleurs, Félix Chadet a dit récemment... qu'elle aurait préféré que les gens attendent Noël pour voir les top 10 des listes de trucs préférés de l'année parce que c'était bizarre de l'avoir ça avant la fin de l'année. Je suis assez d'accord.
Ouais.
Sachant que je vais faire un top 10, que j'ai fait un top 10 pour Test Magazine, donc de mes séries préférées, de mes nouvelles séries préférées de 2015. Donc je suis autant coupable que les autres, mais il ne sera pas mis en ligne avant Noël.
Ah.
Donc, je propose de faire un top 5, d'alterner, toi, moi, on parle des 5 trucs qui nous rendent le plus heureux dans la culture populaire cette année. Et donc, Juliette, à toi, 2015, un des trucs qui t'a plu en 2015, qui t'a fait plaisir en culture populaire, qui t'a rendue heureuse.
Alors, sachant que moi, ça ne va pas être que des choses qui ont vu le jour, enfin qui sont de 2015, c'est aussi des choses que moi, j'ai découvertes en 2015. Alors, notamment en 2015, le premier truc dont j'ai envie de parler, c'est j'ai découvert YouTube. Alors, dit comme ça, ça paraît un peu... Non, j'ai découvert les youtubeurs, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'était beaucoup... Tout ce dont on entendait parler, c'était vraiment plutôt des choses d'humour, de comique, de blagues, de machin comme ça. Et ils ont sûrement beaucoup, beaucoup de talent, mais c'est pas du tout le genre de choses qui m'attire. Enfin, voilà, j'arriverai pas à suivre ça de manière continue. Et du coup, j'ai découvert la richesse de YouTube et des chaînes assez originales, très écrites, très mises en scène. Et voilà, j'ai une passion particulière pour trois youtubeuses dont j'ai envie de parler, qui ont en commun d'être des femmes.
si elles se sont des youtubeuses, je m'en doutais.
C'est ça.
Elles sont françaises ?
Elles sont françaises. Il y en a une qui est d'origine canadienne, mais qui habite en France depuis pas mal d'années, qui en tout cas la chaîne est en français.
C'est bien parce que moi j'ai plein de trucs anglais, donc j'en ai un peu des trucs.
C'est ce que je me suis dit.
Donc c'est bien. Montre que non, on n'est pas contre la France. Vas-y ma chérie, raconte.
Pas du tout, au contraire. Et c'est des chaînes aussi qui sont toutes artistiques, j'ai envie de dire. C'est un peu des actrices, c'est-à-dire qu'elles mettent en scène un personnage qu'elles incarnent sur leur chaîne.
Ok.
Alors, la première, je pense qu'elle commence à être assez connue. J'ai vu qu'il y avait un article dans Elle Magazine sur elle récemment. C'est Solange Te Parle. C'est elle qui est canadienne, elle s'appelle Ina. Elle est actrice, elle est plasticienne. Et donc, elle met en scène ce personnage de Solange. Et c'est une chaîne qui me fait du bien. C'est une belle personne, j'ai envie de dire. Elle a un phrasé qui est très fascinant, très particulier, c'est vraiment joué. Il y a des gens qui détestent. C'est vraiment une chaîne où on accroche ou pas. Elle est très sensible. Elle est aussi très crue. Elle a pas du tout peur de se montrer nue, de parler de sujets liés au corps, à la sexualité. Il y a beaucoup d'humour aussi. Enfin, on a des vidéos qui sont parfois drôles, parfois tendres, parfois bouleversantes. Notamment, récemment, il y a une vidéo qui s'appelle « J'ai couché avec Paris », qui est magnifique, où elle fait des plans de Paris et de son amour pour la ville avec le texte qu'on entend en voix off, qui est... C'est vraiment très, 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 très beau. Voilà, c'est vraiment une chaîne qui me fait me sentir bien et qui me fascine.
Mais ça prend la forme d'un vrai faux journal intime, je veux dire. Elle parle de sa vie ou d'une vie imaginée.
Elle parle, par exemple, des titres. J'ai noté quelques titres. Il y a « J'ai couché avec Paris », il y a un « SDF, mon impuissance », où elle parle de « qu'est-ce que c'est que de croiser des SDF tous les jours ». Quand tu vois, c'est des sujets, c'est des thèmes. Il y a un truc qui s'appelle « Pénis, inclinez-vous ». Il y a un truc qui s'appelle... J'aime regarder les filles, ceci est mon corps, narcissisme, qu'est-ce que la vie ? Tu vois, c'est des thèmes sur lesquels elle fait un tableau, en fait.
Waouh, ok.
Où elle s'adresse directement à la caméra, ça vaut vraiment, vraiment le coup.
Je n'en avais jamais entendu parler, mais en même temps, je ne suis pas une référence, mais par contre, ça m'intéresse, ça a l'air très, très intéressant.
Ouais, vraiment, je le conseille. Et les deux autres, dont je dirais moins, enfin, où je serais un peu plus rapide, il y en a une qui s'appelle Mardi Noir. C'est une toute récente chaîne que j'ai... dont j'ai entendu parler pas d'une autre chaîne, bref. C'est
comme les podcasts, hein. tu mets c'est dedans ça, et tu, ça ne s'arrête jamais.
Exactement. La youtubeuse s'appelle Manu. Elle appelle ça Manu Cure, parce qu'en fait, elle aborde des concepts psychologiques en se faisant une manucure. Et c'est hyper original, c'est un peu dingue. C'est assez brillant, c'est drôle, c'est passionnant, vraiment, elle aborde de vrais concepts psychologiques, psychanalytiques, c'est son métier. Donc du coup, elle les explique, mais de manière totalement, en se maquillant, avec des montages un peu abracadabrant, et c'est génial, parce que c'est vraiment, j'ai appris plein de trucs, et c'est super divertissant, encore un vraiment une chaîne que je conseille. Et la dernière qui s'appelle L'Instant Inutile, c'est la chaîne de Marie. Elle a deux chaînes, il y en a un qui s'appelle L'Instant Futile et l'autre qui s'appelle L'Instant Inutile. Et L'Instant Inutile, c'est un peu... Toujours, c'est dans l'adresse directe, c'est des petites scénettes qu'elle met en scène. Certaines sont très écrites, Il y a toute une série qui s'appelle Dans le métro et une autre qui s'appelle Anne cause de telle ou telle chose. Où vraiment c'est un texte qu'elle récite, par exemple dans le métro, c'est des moments de vie à l'intérieur du métro qu'elle te raconte. Et d'autres, il y a des choses un peu plus sans dessus dessous, avec un montage très resserré. Il y a des pensées de sans dessus dessous, les 50 trucs qui ne m'intéressent pas. Et c'est pétillant, c'est très féministe, elle est assez engagée. C'est très motivant, c'est très divertissant. C'est, voilà, elle, c'est une feel good un peu. Tu la regardes, ça te rend heureuse de regarder la chaîne de Marie.
Bah, tu vois, moi, j'aurais dit que je connaissais YouTube. Et clairement, je ne connaissais pas ça. Et en même temps, je sais que ça existe, mais c'est vrai que je connais très, très mal. Je passe tellement de temps à consommer du média institutionnel que je me rends compte que je suis très naïve en ce qui concerne tout ce qui est tout ce qui est non institutionnel, bien que c'est exactement ce qu'on est en train de faire toi et moi, donc clairement il faudrait que je m'intéresse plus à la question. Mais non, c'est vraiment super super intéressant. Et donc en fait, ouais, c'est ça, t'as découvert YouTube.
Écoute, c'est ça,
félicitations,
c'est chouette.
Et ben moi, c'est pas un truc que j'ai découvert, parce que c'est ce dont je voudrais parler, c'est un type que je connais depuis 10 ans. Donc, pas personnellement, malheureusement pour moi. Je vais parler de Stephen Colbert. Donc, Stephen Colbert, c'est un comique, acteur, divertisseur, comme on dit pas en français, mais comme on peut traduire sauvagement de l'américain, entertainer, qui a commencé sa carrière au Daily Show with Jon Stewart, qui est une émission dont je parle beaucoup, souvent, et dont je vais parler plus longuement sur le site. Je pense que je vais faire un... Je prépare un très long article pour le début d'année prochaine où je vais expliquer un peu pourquoi Jon Stewart est une telle influence sur moi et sur beaucoup d'autres. Et donc, dans les nombreux gens qu'il a influencés, il y a Stephen Colbert qui a d'abord bossé pour lui, qui ensuite a été à la tête d'un spin-off du Daily Show qui s'appelait The Colbert Report. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce que ces choses étaient, mais en gros, c'était une émission satirique où il faisait semblant d'être un conservateur, un présentateur télé hyper conservateur qui détestait les faits, qui préférait... Il y avait un truc où il disait qu'il était dans la no fact zone, qui était à fond pour Bush et contre le changement climatique, jusqu'à ce que le documentaire de Al Gore fasse de l'argent et il fait « Ah, le marché a parlé, maintenant je viens ». Vu que ça a fait de l'argent, ça veut dire que ça existe. Enfin, tout un tas de choses comme ça. C'était un mec brillant. Enfin, c'est un mec brillantissime. Mais dans ce rôle, il était brillantissime. Et il a décidé d'arrêter l'année dernière. Pas pour prendre sa retraite comme Jon Stewart l'a fait, mais pour prendre un job beaucoup plus en vue, en fait. Il a remplacé David Letterman. Et donc, il est à la tête de l'émission du Late Night, donc le truc de 11h30, de CBS, qui est quand même la grande chaîne la plus regardée aux États-Unis. Et donc, il a pris la place de Letterman. Alors, certains auraient pu se plaindre du fait que c'était à nouveau un mec blanc hétérosexuel. Maintenant, Colbert, c'est un type particulier. Ce remplacement qui, en gros, s'est fait en septembre. Enfin, Letterman a arrêté cet été et Colbert a repris en septembre. C'est la fin d'un changement général de tous les présentateurs de talk show du soir aux États-Unis. C'est-à-dire que depuis 3-4 ans, il y a Jimmy Kimmel qui est arrivé, Jimmy Fallon. Enfin, Kimmel et Fallon étaient dans le truc de minuit et demi, ils sont passés à 11h30. Donc maintenant, il y a Colbert et Trevor Noah, un jeune comique africain, a remplacé Jon Stewart. Donc en fait, il y a une espèce de changement générationnel. Bien que Colbert ait 51 ans. Mais malgré tout, son public est beaucoup plus jeune. Et quand il a eu Pearl Jam en invité, vu comment il a chanté avec eux, clairement, c'est pas le même délire que les précédents. Et ce que je trouve assez génial avec cette émission, c'est que moi, je pensais... Parce que, donc avant, c'était la satire politique. Là, je me dis, OK, ça va être du divertissement classique. Tu sais, trois invités qui viennent présenter des bouquins, des films, des machins, des blagues. En plus, ça dure 45 minutes, enfin, ça dure une heure, donc 45 minutes sans la pub. Je me dis, jamais je vais regarder ce truc-là en entier, je vais regarder des extraits. Tu vois, je l'adore, mais bon, qui a le temps de regarder? En plus, c'est 5 fois par semaine. Tu vois, je ne peux pas rajouter 5 épisodes de 45 minutes par semaine à mon emploi du temps. Ouais. Sauf que c'est Stephen Colbert, donc c'est génial. Et du coup, je regarde. Et en fait, ce qui est particulièrement génial, c'est que ce type, qui était déjà très célèbre dans une niche, utilise tout son talent, qui est un talent parce qu'il est drôle, il est gentil, il est ouvert, il est intelligent, il adore aussi chanter, il adore faire plein de choses, il chante très bien, d'ailleurs. Et en fait, il utilise tout ce talent pour exposer son audience, son public, donc l'Amérique, et surtout l'Amérique d'un certain âge, et l'Amérique, peut-être qui ne va pas regarder le câble, l'Amérique de CBS, à toutes les strates de la culture moderne. C'est-à-dire que en l'espace de 3 mois, il a eu trois interprétations, qui étaient issues d'un ballet.
D'accord.
Il a eu des extraits de comédies musicales qu'ils ont fait sur scène. Il a eu donc Pearl Jam. Il a eu des rappeurs, dont une rappeuse black qui arrivait en blouson en cuir noir, en legging, alors qu'elle a, tu vois, qu'elle est clairement d'un gabarit. J'ai trouvé le bon mot, en fait. Je déteste dire qu'elle est en surpoids, qu'elle a des kilos en trop. Parce que, en trop par rapport à quoi ? Disons qu'elle ne ressemble pas au canon de beauté actuel, même si elle est sublime. Et du coup, cette nana d'arriver sur scène en faisant son rap, c'était hyper impressionnant. Surtout quand quand il l'a remercié, qu'il est venu devant la caméra pour dire machin, elle s'est jetée sur lui et lui a fait un gros câlin. C'était génial. Et il y a un truc, et tu sens qu'en fait, il prend son boulot de plateforme culturelle hyper au sérieux. Tu vois qu'il l'utilise, et d'ailleurs il parle énormément de politique, il parle énormément des élections présidentielles qui sont à venir, et c'est très drôle parce qu'il a joué un conservateur, le personnage, il faisait semblant d'être conservateur pendant 10 ans, mais en fait il est de gauche, donc du coup là il est complètement à l'envers de ce qu'il faisait avant, bien qu'en fait l'humour fonctionne pareil. Mais en fait, moi, ce que je trouve génial, c'est que déjà, pour moi, c'est génial parce que c'est vraiment une prise en température du climat culturel américain. C'est-à-dire que j'entends parler des comédies musicales dont on parle, j'entends parler des sujets dont on parle, des livres. Enfin, c'est vraiment... c'est génial comme façon d'être au courant de ce qui se passe. Et à côté de ça, je trouve que c'est tellement touchant comme démarche. Tu sens qu'il n'est pas en fait en train de se dire « mon Dieu, qu'est-ce qui va faire que j'ai assez d'audience pour survivre ?»
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? Il ne pense pas dans ce sens-là. Il ne pense pas « qu'est-ce qui va faire que les gens vont rester ?» Il dit « qu'est-ce que je trouve génial et que je veux partager avec les gens ?»
Ouais.
Et petite note personnelle française, il a fait une émission spéciale. Parce que finalement, tous les sujets se rapportaient un peu à ça. La première émission qu'il a eue après les attaques, qui était le 16 novembre, les attaques de Paris. Et il a déjà, le premier truc, c'est que son générique de début, c'est une vidéo, tu sais, comme des images, tu sais, quand tu as des images où tu as une image par minute. Tu vois ce que je veux dire ? Ou au lieu de prendre 24 heures, pas une image par minute, et ensuite il l'accélère. Et donc, c'est ça sur New York. Et en fait, ils ont fait un générique spécial sur Paris. Ce jour-là.
D'accord.
En fait, ça a commencé. D'accord. Tout le décor était aux couleurs du drapeau français. Le groupe a joué la Marseillaise. Pratiquement tout le public était debout. Et d'habitude, il vient, il parle. Là, il n'est pas venu, il n'est pas parlé. Et hop, ils sont partis sur le générique qui était que sur Paris. C'était hallucinant à regarder.
Parce que ça a été beaucoup relayé sur les réseaux, mais pas cette partie-là, en fait. Ce qui a été beaucoup relayé, c'est son introduction juste après, en fait.
Oui, mais en fait.
Donc j'ai pas vu tout
ça. En fait, moi j'ai pas réussi à retrouver le générique. À part.
D'accord. Ouais, non, je l'ai vu nulle part.
Dans la version, quand tu regardes la version sur le site avec un VPN. Et donc, enfin, je sais pas, il y a une espèce de. Et puis tu vois, par exemple, c'est un catholique très croyant. Et du coup, quand le pape était aux États-Unis, il a fait une semaine entière où il a parlé du pape et de la religion. Il a fait venir plein d'invités de culture populaire qui sont ouvertement catholiques. Il a parlé de la difficulté d'être catholique, de gauche, homosexuel. Enfin, c'est et tu sens une espèce de voilà, j'ai une tribune, je suis à la télévision, donc je vais faire de la télévision pour tout le monde. Et ça m'a tellement fait plaisir. C'est surtout, enfin, je pensais qu'il serait génial, mais confirmation absolue quoi. Et le pendant, c'est Trevor Noah qui remplace Jon Stewart, qui est absolument génial aussi. Alors que Bonjour bonjour le niveau des attentes. Mais je pense que lui, dans les mois à venir, je pense qu'il va encore plus se développer, il va encore plus trouver sa voie à lui. Donc j'en parlerai plus tard quand l'émission sera devenue ce qu'elle doit être. Mm-hmm. Mais il y a une interview de Linda Holmes, ça fait une interview de lui pour un festival NPR, et c'était sur le feed de Pop Culture Happy Hour, et c'était 45 minutes où ils discutaient ensemble, et je veux dire, t'es là, mais Trevor Noah est trop intelligent, c'est impressionnant. Donc voilà, donc ça c'était vraiment un des trucs qui m'a fait plaisir, c'était le nouveau late night américain qui fait que j'ai encore moins de temps pour moi, mais qui par contre est vachement,
faut vraiment
vachement
que je
intelligent.
Regarde. J'ai toujours eu envie parce que tu m'en as souvent fait voir et à chaque fois j'ai apprécié, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment suivi ça en continu.
Tu regardes
voilà,
John Oliver
là, tu m'as donné vraiment très très envie.
Tu regardes John Oliver?
Non, aucun, je regarde aucun de...
Parce que l'intérêt, c'est que John Oliver, qui est l'autre disciple de John Stewart, l'intérêt, c'est que John Oliver, c'est une fois par semaine.
D'accord, oui.
Et puis, il n'y a que 35 épisodes par an.
D'accord.
Donc, tu peux plus les voir. Et puis, John Oliver, pour le coup, c'est... Enfin, ça devrait être montré à l'école, quoi.
Ouais.
C'est parce qu'en plus,
j'en ai vu certains, mais effectivement, il faudrait que je regarde toutes les
semaines. Lui, il fait 15 minutes sur chaque sujet, et c'est des sujets politiques importants, et il dit des trucs. Mm-hmm. Ne soyons pas naïfs. Hein, beaucoup de choses dont il parle aux États-Unis ont des trucs assez similaires en France, en fait. Tu vois, l'état des prisons, comment on traite les prisonniers, comment on s'en fout complètement de qui est en prison, et on suppose que c'est que des gens coupables, alors que c'est pas vrai. Il y a un chiffre américain qui dit que 97% des gens ne passent pas devant un jury parce que c'est pratiquement tous les process sont réglés par deal en fait. Donc en gros, on dit tu risques 20 ans, prends 10 ans même si t'es pas coupable, comme ça au moins tu sors dans 10 ans. On voit ça beaucoup dans les séries américaines, ça paraît fou, tu vois.
Oui.
J'ai découvert récemment que les chiffres étaient similaires en France.
Mais effectivement, en France, on met les gens en préventive avant de les juger de toute façon. Enfin, même sans parler de jugement, même la préventive, tu peux y rester des années sans même que ton cas ait été étudié.
C'est pour ça qu'il nous faudrait un John Oliver à nous.
Tout à fait.
Et moi, John Oliver, ça me donne tout le temps envie, ce dont il parle, de fouiller, de regarder, chez nous, c'est comment, quoi. Donc, c'est pas anodin de regarder ce truc-là. Et ça développe l'esprit critique, quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça c'était mon numéro 1. Je vais essayer d'être plus rapide pour les autres. toi, numéro 2 ?
Alors, mon numéro 2, où j'ai pris des notes très 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 longues, puisqu'on arrive dans les livres, les romans, et j'ai tendance à être longue.
Écoute, c'est pas grave, je couperai au montage, vas-y.
D'abord, je suis en plein, et du coup c'est mon livre de 2015, en train de lire Song of Ice and Fire, donc le Trône de Fer.
Game of Thrones, tu veux dire.
Yes, Game of Thrones. J'ai attendu d'avoir fini la saison 5 de la série pour pouvoir entamer les romans, parce que j'avais peur que les romans soient trop bien et que ça me gâche la série. Effectivement, les romans sont très très bien. Après, je comprends, j'y viendrai après, je comprends pourquoi il y a des gens qui ont du mal à accrocher, mais après, ils reprochent la même chose à la série. Mais enfin, bon, voilà, moi, j'adore. Du coup, j'en suis au début du tome 5. Donc, j'ai déjà lu 4 fois entre 1000 et 2000 pages.
Oh, putain,
mais c'était cool.
Je crois que j'ai pas fini un livre depuis 2012. Je crois que le livre que j'ai dû finir, ça doit être Twilight. Non. Non, c'est pas vrai, parce que j'ai lu Hunger Games.
Bon, alors ça va.
Putain, moi qui étais littéraire, c'est pas littéraire en français dans le texte. Non, j'ai lu des trucs de non-fiction, mais des essais beaucoup, mais j'ai des trucs sur internet, mais j'arrive pas à finir un livre, quoi. Enfin bon, les autres livres que tu nous conseilles ?
Et du coup, d'abord deux, trois mots sur Game of Thrones.
C'est vrai que personne n'a jamais entendu parler, vas-y.
Non, personne connaît. Mais non, mais les gens n'ont pas forcément lu les romans. Et je veux dire qu'il faut lire les romans, que c'est bien. Non, c'est bien écrit. Il faut le lire par contre, il faut pouvoir lire l'anglais, pouvoir le lire en VO. Parce que d'après ce que j'ai lu sur des forums, la version française est absolument épouvantable. En tout cas, très mal écrite. Alors que vraiment, le style est très bon en version originale.
Ça m'explique pourquoi mes amis francophones qui aiment ce qui se passe dedans, mais me disent que c'est un peu chiant à lire et que c'est mal écrit. C'est pas du tout ce que j'entends des anglophones. Et je comprends pas, je commence à comprendre pourquoi.
C'est ça. Apparemment, le traducteur, mais comme souvent dans les romans de fantasy, les traducteurs ne s'embêtent pas beaucoup à faire de la bonne littérature parce que c'est de la fantasy et qu'en France.
On s'en fout.
On s'en fout.
Non, mais je te rassure, aux États-Unis et en Angleterre aussi, s'en fout. C'est juste que vu que c'est l'auteur original qui s'en occupe.
Qui lui, non.
Les éditeurs, ils s'en foutent aussi, je te rassure.
Ok. Ah oh là 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 là, quel monde. Et et juste dire que c'est ça vaut le coup de le lire par rapport à la série parce que on comprend beaucoup mieux. La série est quand même un petit peu dense, alors que dans les romans quand même on comprend. Enfin tous
ça
les
fait plaisir.
Tous les
ça
ressorts,
fait partie du plaisir. C'est parti du plaisir de regarder quelqu'un se dire. On le connaît.
Oui.
C'est qui? Mais c'est pas l'autre. Mais on est où là? Hein? Attends, je vais sur Wikipédia. Merde, je me suis fait spoiler! Il est mort! Ah!
Et du coup, c'est fascinant de le lire parce que du coup, tout s'éclaire. Et c'est un peu comme si tu avais tous les petits paliers entre toutes les scènes que tu voyais dans la série et tu comprends où. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé entre deux scènes? Pourquoi les gens agissent comme ils agissent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Et il y a aussi plein de scènes bonus, entre guillemets, plein de choses qui montrent pas. Bon, déjà, il y a pas mal de différences avec la série, enfin, plus on avance, mais surtout, il y a des scènes géniales qui n'ont pas été reprises pour une raison qui me dépasse, parce qu'elles sont extrêmement visuelles. Et
pour une raison
du coup,
de
c'est
temps.
Beaucoup plus.
Pour une raison de temps, tu vois, nous, par exemple, on essaie de parler de 5 trucs, on a pour 5 heures. Et bah, nous, on s'en fout, on est sur Internet. Eux, ils peuvent pas.
Non, ouais, mais il y a des choix, c'est dommage. Mais bon, mais du coup, je ne vous spoilerai pas, donc je ne vous dirai pas quoi. Comme ça, vous serez obligé d'aller lire les romans.
Et d'ailleurs, quand vous avez lu les romans, vous pouvez envoyer un email à Juliette ou lui écrire sur Twitter pour lui dire « Ah bah, eh bah alors,
j'ai,
tu parles
j'ai
quoi ?»
J'ai perdu 3 mois de ma vie, je te hais.
Donc c'est @JulietteDodd, D-O-D. Juliette avec deux T. Ok, alors, et donc, tu disais que tu avais des livres.
Des livres. Alors,
bon, les autres, tu dis que les titres.
Ah non. C'est pas possible. Le deuxième, c'est Alain Damasio, qui est un auteur français de science-fiction et que vous devez lire. Voilà, c'est tout. Non, il a écrit notamment.
Non,
moi, j'ai
si,
dit
si,
la
si,
Horde.
Si, si, il faut le lire. Mais en plus, tu n'es pas la seule à m'en parler.
Ouais, il a écrit La Horde du Contrevent, La Zone du. Enfin, moi, j'ai lu en tout cas La Zone du Dehors. Là, je suis en train de terminer un recueil qui s'appelle Aucun souvenir assez solide. C'est brillant, c'est génial au sens qu'il a du génie. Que c'est, il met en scène des concepts philosophiques et sociopolitiques. C'est extrêmement, extrêmement bien écrit, mais enfin, j'ai vu peu d'auteurs dans toute l'histoire du monde où j'ai lu des livres, et j'en ai lu beaucoup, beaucoup, qui écrivent aussi bien que Damasio. Il a une manière de jouer avec les mots, de transformer le langage, de lui faire faire des. Voilà, c'est vraiment des œuvres d'art, ces livres. Après, c'est ardu. C'est-à-dire qu'il faut aimer lire pour lire Damasio et enfin voilà, il m'est arrivé de reposer un livre tellement c'est angoissant parce que quand je dis qu'il parle de concepts philosophiques, c'est il va vraiment loin. Mais en même temps, ça rend intelligent de lire ses livres. tu sens que tu grandis, tu vois, c'est enrichissant.
Il me semble.
Donc
il me semble. Mm-hmm. Et je couperai ce passage au montage si j'ai tort. Mm-hmm. Que c'est un auteur fétiche de Alix.
C'est possible.
Il me semble qu'Alix m'a déjà parlé de lui. Enfin, en tout cas, je sais qu'elle a un auteur fétiche et il me semble que soit c'est lui, soit il est aussi un type qu'elle aime beaucoup.
D'accord.
Et du coup, ben voilà, je le mets immédiatement dans ma liste de Noël pour Amazon.
Ouais.
Voilà. J'attends. Donc, cool. Je vous donnerai mon compte Amazon, si vous voulez, les gens, si vous voulez m'offrir des cadeaux pour Noël.
On fera du crowdfunding.
C'est ça. Pour payer un livre à Yael.
Ok. Troisième auteur. Et là, en 3 mots et demi, parce que sinon, il faudrait faire un podcast indépendant. Mon auteur préféré, qui s'appelle Léa Silol, qui est aussi une auteure française, qui vient de sortir un nouveau roman. Elle n'avait pas écrit depuis 3 ans parce qu'elle trouvait que le milieu d'édition ne la
soutenait pas.
soutenait pas et que c'est une auteure extrêmement engagée et qu'elle préfère arrêter de publier plutôt que de faire des compromis s'ils ne sont pas nécessaires. Son dernier roman s'appelle Possession Point. C'est sûrement très très mal dit.
Possession Point.
Exactement. C'est de la fantasy urbaine. Yes.
Désolée. Je vais m'en empêcher. C'est mon côté bitchy. Et c'est de la fantasy urbaine, c'est ça que tu viens de dire ?
C'est de la fantasy urbaine, ouais. C'est difficilement définissable, c'est très engagé, c'est très...
Il faut lire.
C'est extrêmement bien écrit. C'est comme Damasio, c'est... Enfin, voilà, c'est... J'ai tombé amoureuse de son écriture quand j'étais adolescente, et le fait de relire son dernier livre, je me dis que je ne me suis pas trompée, c'était... Enfin, voilà, elle écrit vraiment extrêmement bien. Et c'est l'auteur qui m'a le plus transformée, donc voilà.
Tu peux épeler son nom ? Là,
alors, Léa... Comme Léa, Silol, S-I-L-H-O-L.
Et son dernier roman s'appelle, répète ?
Possession Point.
Ah, Possession Point, oui, je viens de lire. Non, non, c'est juste pour que les gens qui ne vont pas sur notre site, et vous avez bien tort, parce qu'il y a plein de trucs intéressants à lire dans le poste, puissent l'acheter quand même immédiatement sur Amazon. Enfin, d'ailleurs, la Fnac, Amazon, votre libraire de quartier. Hein, n'oublions pas les libraires de quartier.
Ouais, complètement.
Ok, super.
Ça y est, j'ai fini.
Mon tour ? Ok. Et ben moi, vu que je ne sais pas lire, je vais au cinéma. Et j'ai une passion pour les grands films à succès, les films popcorn. J'adore ça. Et je ne pense pas que c'est que des films popcorn. C'est un truc que... Je trouve que c'est un art très particulier de réussir à faire un truc qui plaît à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc j'adore les blockbusters. Sauf que le problème des blockbusters, c'est que généralement, les meufs, elles sont un peu débiles ou il n'y en a pas. Et donc c'est un... souci, c'est un peu amélioré, c'est quand même un peu amélioré depuis les années 80, mais quand même c'est un peu difficile, sauf qu'en 2015, pour mon plus grand plaisir, pratiquement tous les blockbusters que j'ai vus ont des personnages féminins qui, en gros, me réconcilient avec le genre. C'est-à-dire que notre amie Joss Whedon dans Avengers, contrairement à ce que tout le monde raconte, ah ouais, c'est pas féministe parce que la nana, elle est malheureuse d'être stérile. Je vous conseille d'écouter notre podcast d'avril pour en entendre plus, mais le truc que je suis pas sûre d'avoir dit à l'époque, mais que je trouve assez fascinant, c'est que c'est très rare d'avoir un personnage indépendant, badass, cool comme ça, qui tombe amoureux. Ouais. Et de penser que oui, je peux être la plus forte du monde et j'ai quand même le droit de tomber amoureuse, moi je trouve que c'est un truc qui donne de l'espoir. Parce que il y a un peu toujours le côté que c'est l'un ou l'autre. D'ailleurs, avec les mecs aussi, hein, ce qui m'énerve tout autant, quoi. Je suis un héros, donc je ne peux pas être avec quelqu'un. Hein ? Bon, moi, je pense qu'on est un meilleur héros quand on a de l'amour dans sa vie. Mais bon, c'est moi. Toujours est-il qu'en commençant par ça, mais ensuite, nous avons quand même eu Mad Max, Fury Road,
ouais.
Sur lequel nous avons un long podcast que je n'ai jamais mis en ligne parce que je suis une méchante fille, mais que je vais peut-être faire en surprise bonus du nouvel an. Donc Mad Max, Fury Road avec toutes les meufs, tout ce que ça dit sur les nanas, et la merveilleuse Furiosa incarnée par Charlize Theron. Il y a eu aussi Nom de Code Uncle que j'ai adoré, je l'ai vu trois fois au cinéma ce film.
C'est
le remake d'une série des années 60. C'est très drôle d'ailleurs parce qu'en fait c'est une série qui a été co-créée par Ian Fleming, l'auteur de James Bond, et qui en fait est arrivée avant James Bond et qui a beaucoup contribué au mythe moderne de l'espion avant même que James Bond arrive.
D'accord.
Et de l'espion international pendant la guerre froide et ce genre de trucs. Le concept c'est que pendant la guerre froide, au moment où ils construisent le mur de Berlin et que les États-Unis et l'URSS ne peuvent pas, enfin, n'ont aucune relation diplomatique, un agent secret américain et un agent secret russe travaillent secrètement ensemble pour les services secrets. Enfin, les services secrets sont au courant, mais ils n'en parlent pas publiquement parce qu'ils ne sont pas censés se parler. Mais c'est pour les... C'est deux agents qui travaillent ensemble pour tous les sujets où les deux côtés de la guerre froide ont des intérêts communs.
D'accord.
Donc c'est un concept assez ouf en fait, et c'est rigolo parce qu'à l'époque de la série, donc la série en plus existait dans les années 60, donc dans les années 60 t'avais un américain, et ma mère d'ailleurs, j'ai emmené ma mère voir le film et elle me fait bah mais c'est Uncle, enfin je connais, c'est comme la série. J'étais là, enfin elle m'a tourné une sortie de titre français, j'étais là bah oui, elle fait ah bah je connais, c'est Napoléon Solo, je connais. J'étais là, ok. Et le film, c'est un film de Guy Ritchie. Écoute, moi, j'ai juste adoré ce film. J'adore la musique. En plus, ça commence à Berlin. Et il y a une meuf géniale au milieu. Et il y a une autre meuf qui est la méchante, qui est d'une classe et d'une méchanceté. Enfin, elle est juste parfaite. Ça change tout de suite la façon dont je vis un film, en fait. Parce que c'est pas que je viens avec mon étendard féministe au cinéma. C'est juste que quand il n'y a pas de nana intelligente, en fait, tout d'un coup, je prends plus le film au sérieux, quoi.
Ouais, ouais.
J'ai d'ailleurs le même problème dans les films modernes quand il n'y a personne de couleur et il n'y a personne d'homosexuel, hein, parce que c'est juste, ça ne reflète pas le monde. Ouais. Après, un truc d'espionnage de guerre froide dans les années 60, tu peux comprendre qu'il n'y ait personne de couleur, parce que clairement, à ces endroits-là, enfin, tu vois, en Allemagne de l'Est, en 1960, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent d'Afrique. C'est moins dérangeant. Mais par contre, s'il n'y a aucune nana qui n'est pas une cruche finie, j'y crois pas. Ouais. Et là, les deux meufs sont... Enfin, moi, je trouve les deux meufs géniales. Ensuite, il y a eu Mission Impossible.
Mmh, où
le seul souci, c'est que devrait y avoir une nana dans leur équipe, c'est pas logique qu'il y en ait qu'une, mais bon. Mais par contre, le personnage féminin principal, qui est une espèce d'énorme lettre d'amour à Ingrid Bergman, parce qu'il y a tout un tas de références à Casablanca dans le film en général, apparemment le réal et Tom Cruise sont obsédés par ça, et l'actrice d'ailleurs, non, le personnage a le même nom que le personnage d'Ingrid Bergman dans Casablanca, et il y a le rap, enfin déjà, cette nana, elle est ouf, elle sait tout faire, elle est trop cool. Elle enlève deux fois ses talons dans des scènes de combat. C'est génial. Enfin, une fois pour taper sur quelqu'un, une fois pour s'enfuir par les toits. Et ce que je trouve génial, c'est qu'à aucun moment elle est traitée comme l'ennemi ou elle suggère la méfiance de la part de Tom Cruise, en fait. Parce que deux, trois fois, elle lui fait des faux plans, mais parce qu'elle n'a pas le choix. Et au lieu de dire oui, on peut pas lui faire confiance, tout le monde va dire non, non, mais bien sûr, je lui fais confiance. Enfin, c'est son boulot, c'est normal, c'est une espionne. Tu vois, c'est un truc tellement différent de ce que j'ai vu au cinéma jusque-là, en fait.
Ouais, ouais.
Tu vois, c'est pas le côté femme fatale du tout. Et pourtant, elle manque de le tuer trois fois, mais on lui sauve la vie aussi tout le temps. Mais je passe aussi la moitié du film à lui sauver la vie, ce qui est trop cool. Et il y a Spectre, le dernier James Bond, où. La nana, elle est médecin et pendant tout le film, il l'appelle docteur.
D'accord.
Et ça, c'est con, mais ça fait plaisir.
Ouais, ça veut dire beaucoup.
Sans parler du moment où elle se bourre la gueule devant lui et elle trébuche dans ses bras et elle le regarde en disant « Non mais tu crois quand même pas que je vais tomber dans tes bras et qu'on va coucher ensemble non plus, ça va, je suis pas débile. » Et là, tu fais « Oh, James Bond a grandi !» Donc, donc voilà, super. Et finalement, last but not least, n'en déplaise à tous les gens qui n'ont pas aimé Star Wars.
Ah, attention, pas de spoiler, je fais toujours pas.
Je ne dis aucun spoiler, juste merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Et les gens qui expliquent sur Twitter et sur Facebook, que Star Wars n'est pas révolutionnaire, ça ne grandit pas le cinéma, c'est ce qu'il reproche au film, quand même, que je trouve merveilleux. Pour un truc enfin, tu vois, en fait, il reproche au film d'être un truc commercial. En fait, c'est truc génial, mais ils se sont fait pareil avec Avengers, c'est que tout ce qui fonctionne dans le film, les gens disent, mais c'est normal, parce que c'est un truc commercial, marketing, donc c'est fait pour fonctionner. Genre, c'est facile de faire un truc divertissant. Genre, c'est donné à tout le monde de faire un truc divertissant, ça se voit. Mais d'ailleurs, regardez épisode 1, 2, 3, vous allez voir, c'est pas si facile que ça.
Pas si facile, non.
Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, en même temps, il reproche au film de pas révolutionner le cinéma ou de pas révolutionner la franchise. Et t'es là, en même temps, c'est pas le but. Enfin, tu vois, c'est pas de casser le truc. Enfin, et surtout, il y a des éléments révolutionnaires dans ce film dont personne ne parle, ce que je trouve hallucinant, quoi. Une fois de plus, je rappelle, dans Pacific Rim, il y a une nana qui regarde l'écran en face. Toutes les autres, elles tournent le dos à la caméra. Bon, tu dans Mission Impossible, il n'y a pas beaucoup d'autres nanas. Hein. Franchement, ça, c'est problématique. Mais bon, parce que ça, c'est aussi un truc, c'est que c'est bien d'avoir un personnage féminin, mais quand on a plusieurs, il se passe d'autres choses, quoi. Voilà, en 2015, je me suis dit, putain, les blockbusters, ils ont trop compris comment parler aux meufs. Et
non, mais j'ai l'impression, il y a une vraie tendance en ce moment.
Et pour moi, ça date d'un peu plus loin, hein, parce que moi, ça date du moment où, dans Spider-Man, Gwen Stacy n'était tout d'un coup pas conne, contrairement à l'autre cruche de Mary Jane, dans la version précédente des films, qui était follement amoureuse de Spider-Man et regardait pas Peter Parker, alors que Gwen Stacy, non seulement elle s'en fout de Spider-Man, elle a toujours été que amoureuse de Peter Parker, mais surtout c'est la première personne à qui il révèle son identité. Ce qui paraît logique, il est amoureux d'elle, il va lui dire à elle, il va pas le dire à la terre entière et pas à la meuf dont il est amoureux, comme dans tous les autres trucs de super-héros.
Ouais.
Et ensuite, il y avait eu The Dark Knight Rises, le troisième Batman, où pareil, le personnage de Catwoman était génialissime. Et il y avait aussi le fait que c'était la première personne à qui il révélait son identité secrète.
D'accord.
Ce qui paraît logique.
D'accord. Bah oui.
Et tout d'un coup, tu dis, ah, on a changé, les personnages féminins ne sont plus traités justement comme un objet d'obsession et de fantasme, mais comme un partenaire.
Ouais, ouais, il y a une vraie évolution.
Donc voilà, donc
pourvu que ça dure.
Bah voilà, moi ça, en tout cas moi ça m'a fait très plaisir en 2015. Bon allez, à toi.
Alors pour mon troisième truc, on en est qu'au troisième truc, hein. Oh là là.
C'est pas grave. Moi j'en ai un qui va être rapide après, parce que c'est un où j'ai déjà parlé. Okay. J'ai triché.
Alors moi, j'hésite entre deux choses et en même temps, je les mets au même endroit. J'ai commencé à m'intéresser très fortement à The Good Wife, c'est-à-dire que je le vois de manière totalement anarchique, mais que je le regarde.
Explique quand même ce que tu veux dire par anarchique.
Alors, j'ai vu un épisode de la saison 7 à la télévision. J'ai trouvé que c'était vachement bien. Je me suis dit, j'aimerais bien voir la suite de cet épisode. Du coup, j'ai vu la suite de cet épisode sur Internet. Je me suis dit, ah, quand même, ça a l'air bien cette saison. Du coup, j'ai regardé la saison 7 en entier. Puis je me suis dit, je vais quand même regarder la 6. Parce
tu peux pas regarder la saison 7 en entier, elle a pas...
Oui, enfin, j'ai regardé le début de la saison 7.
Et parce qu'elle est en cours.
Elle est pas finie. On en est au 10, ouais.
Que d'ailleurs, du coup, après... je l'ai toujours pas vue. Moi, j'ai vu que les 3 premiers ou les 4 premiers.
D'accord. Non, elle est très bien, la saison 7.
Oui, non, mais je m'en doute pas. Je m'en doute pas. Moi, je regarde The Good Wife depuis le début. Donc, je sais que c'est bien. Soyons clairs, c'est une des meilleures séries de grandes chaînes, mais en général, c'est une des meilleures séries qui existent.
Ouais. Ah, c'est génial. Et donc, du coup, j'ai regardé la 6, et là, je suis en train de regarder la 4, parce que les 3 premières saisons, j'en ai vu beaucoup, beaucoup d'épisodes à la télé. Mais il y a des choses mais bon, c'est débile, mais il faudrait vraiment que je les regarde. Je fais exactement ce que je reproche à tous les gens de faire. C'est complètement ridicule.
Donc, tu découvres The Good Wife. Mais bah écoute,
donc, félicitations. Je découvre The Good Wife. Voilà. Et donc j'adore. Et j'adore parce que c'est intelligent, c'est divertissant, c'est un peu foufou. On en avait parlé vite fait, c'est ce que je disais. J'adore le fait que au niveau de l'écriture, du montage, de temps en temps, ils font des expérimentations, ils partent dans des délires, ils font des trucs qu'on n'attend pas du tout. On a l'impression que c'est une série un peu pas classique, mais en tout cas qu'elle a un schéma, et en fait pas du tout, il le casse en permanence.
Mmh. Et comment c'est génial, il est différemment tout le temps, c'est impressionnant.
Ouais. Et je trouve ça passionnant du fait que ce soit des avocats, d'avoir du coup des cas qui sont défendus par deux parties, et d'avoir le point de vue de l'adversaire en fait. C'est rare qu'on ait ça dans des séries. Et moi, ça me permet beaucoup, peut-être pas de remettre en question mes idées, mais en tout cas de mieux comprendre pourquoi il y a des gens qui défendent d'autres choses que les choses en lesquelles je crois. Et même si c'est quelque chose que je fais un petit peu naturellement, c'est quand même autre chose de le voir dans une série, et je trouve ça génial.
Non, mais surtout, ce que j'adore dans cette série, c'est que t'as pas de... Il n'y a pas de certitude sur le droit chemin.
Non, ouais.
Il n'y a pas de certitude sur le droit chemin, ce qui ne veut pas dire que les personnages n'ont pas de densité morale. C'est-à-dire qu'ils ont des éthiques, ils ont de la morale, ils ont des idées, ils ont des engagements, notamment politiques.
Oui, ouais.
Oui, mais c'est ça. Et en plus, c'est rigolo à quel point tu as l'impression qu'il y a très peu de sentimentalité autour de leurs engagements politiques. Et surtout, moi, c'est ça ce que j'adore. C'est qu'en fait, j'expliquais à quelqu'un... récemment, je dis que c'est une série fondamentalement politique, qui parle de politique littéralement, parce qu'il y a quand même toute une partie qui est concentrée sur les questions politiques locales, mais il y a surtout parce que aux États-Unis, la loi est au centre de la politique. On le sent de plus en plus. Les choses se jouent autour de ce qui se passe dans la loi. Et d'ailleurs, la série a un engagement politique clair. Enfin, tu vois, moi, le début de la saison 6, spoiler, tout ce qu'ils ont fait avec Carrie, je trouvais ça très très fort, parce que c'est un gros problème, ce truc de comment on peut se retrouver en tôle et comment on est traité en tôle.
Ouais.
C'est un vrai problème. Et là, à nouveau, ils montrent ils vont encore plus loin en montrant le boulot d'Alicia in Barnes Court, donc qui fait partie de ces avocats des avocats pas chers qui sont à disposition des gens qu'on considère, enfin, qui n'ont pas le droit à avoir un avocat gratuit.
Oui, le droit à être représenté par un. Ouais, c'est ça. C'est génial, ça. Je connaissais pas du tout comme concept. Je savais même pas que ça existait.
Moi non plus, je savais pas que ça existait. Et à mon avis, ils ont dû découvrir que ça existait. Ils ont dit, on peut pas faire un épisode, en fait. Ouais. Faut faire plein d'épisodes. Enfin, en tout cas, moi, je suis pleinement partisane du fait que tu regardes The Good Wife. La question, c'est que t'as recommencé la saison 4. C'est dommage, parce que la première moitié de la saison 4, c'est le seul moment où les gens se plaignent un peu de la série. Uniquement à cause de la trame de Kalinda, qui a pas beaucoup plu. Parce que tu sens qu'elle
d'accord.
est...
Effectivement,
parce qu'elle est un peu ratée, en fait. C'est
ce qui me passionne le plus.
En fait, c'est intéressant. Enfin, ce qu'ils ont essayé de faire est hyper intéressant, mais ils n'ont pas vraiment réussi à le faire. Mais en même temps, ils l'ont assumé jusqu'au bout d'avoir pas réussi, tu vois. Mm. Mais, et du coup, ouais. Bah, du coup, tu vas voir la saison 5. Et du coup, alors attends, spoiler. Tu savais ce qui se passait avec Will ?
Bah non, oui, voilà. Du coup, je me suis complètement spoilée en... Bah, dès la saison 7, hein, mais bon.
Mais du coup, oui, mais en même temps, tu dois avoir... Ils n'en parlent pas souvent, donc tu dois pas vraiment...
Non, du coup, je sais pas vraiment, en fait. Enfin, je sais pas comment ça a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment elle a réagi. Enfin, tu vois, j'ai pas les...
Bah, je te dirais un truc qui est fou, c'est que ça se passe dans l'épisode 15 de la saison 5. Ce qui veut dire que l'épisode 16 d'accord. de la saison 5 est consacré à ça. D'accord. Enfin, ce qui se passe après.
Okay.
Or, je ne sais pas si tu sais, mais l'épisode 16 de la saison 5, c'est le numéro de l'épisode de The Body de Buffy.
Ah.
Et c'est difficile de penser à l'un sans penser à l'autre.
Ah, c'est intéressant, d'accord.
C'est le même épisode, je pense que c'est complètement hasard, il n'y a que moi qui l'ai remarqué. Ouais.
Mais, j'ai des grandes chances.
Mais c'est ouf à quel point il y a des moments dans cet épisode où tu penses à Buffy.
D'accord.
Donc je t'ai complètement spoilé encore plus, et tous les gens qui regardent,
tout à fait.
Qui n'ont pas regardé. Anyway, je pense que c'est en même temps une expérience très riche, et que la surprise ne fait partie que des 3% de l'intérêt de regarder ça.
Ouais.
Tu disais que t'hésitais entre ça et un autre.
Oui, j'hésitais entre ça et un autre, et c'est pas innocent que je l'ai mis dans le même point. C'est que c'est aussi 2015, l'année où j'ai fini enfin The West Wing à la Maison Blanche.
C'est clair que les points de commun aussi sont clairs.
Voilà. Et qui est, bah, je pense, très reconnue comme une des meilleures séries.
C'est numéro 2 de mon top 5 de tous les temps. C'est
d'accord.
numéro 2.
D'accord. Ouais, c'est génial. J'ai tout aimé de bout en bout. C'est intelligent, c'est incisif, c'est riche, c'est profondément humain. Vous en avez parlé d'ailleurs dans votre podcast sur l'humanisme. J'adore l'idée d'être dans les coulisses du pouvoir. Surtout que c'est très très réaliste d'après ce que j'ai lu, tout est vérifié, tout est documenté, etc. Et puis les personnages sont attachants, sont formidables, sont complexes, sont plein de contradictions, donc très, d'autant plus réaliste. Le président est formidable, j'adore le président.
T'as mis combien de temps à passer la saison 5
Est-ce que c'est... Effectivement, il y a une saison où j'ai un peu... C'est peut-être la saison 5, ouais.
Je pense. C'est la saison après que Zoé a été kidnappée.
Ah ouais, c'est peut-être ça, effectivement. Ouais, ouais.
C'est le moment où Sorkin s'est fait virer.
D'accord.
Sorkin s'est fait virer à la fin de la saison 4. Et toute la saison 5, c'est John Wells qui essaie de rattraper le coup. Et c'est compliqué. Tu sens qu'ils essaient de se réinventer. Il y a plein de choses très intéressantes. Moi, je trouve tout ce qui se passe en Israël est passionnant. Avec mais c'est vrai que tu sens que c'est vraiment la saison 6 qui retrouve au milieu de la saison 6 que tout d'un coup ils trouvent ce dont ils vont parler avec la nouvelle campagne et avec Stamos et tout ce truc là qui commence et qui est génial et j'adore The West Wing, on pourrait en parler pendant des heures, donc j'approuve complètement de cet amour de The West Wing. Donc en gros l'année 2015 c'est l'année où on découvre que vu qu'il y a trop de télé, eh ben on faut arrêter de se faire chier, essayer de tout regarder et de regarder des bons trucs qu'on n'a pas le temps de voir.
Exactement. Voilà. Exactement,
dit celle qui est en train de regarder Psych pour la 6e fois. Oups. J'ai découvert l'autre jour que en fait Psych c'était mon numéro 5 de mon top 5 de tous les temps. Parce qu'en fait, d'accord, quand tu regardes une série, quand tu as regardé l'intégrale d'une série plus de 4 fois, je pense que c'est automatiquement ça rentre dans le top.
Ouais, je pense qu'on peut le dire.
Remarque, Loïc, c'est clair. Bon, passons. Du coup, je veux dire tout de suite mon truc télé, comme ça on va passer très vite à autre chose parce que je veux pas en parler éternellement. Le clin d'œil télé, le truc dont je suis vraiment reconnaissante de 2015, c'est parce que 2015 m'a apporté Crazy Ex-Girlfriend.
Yeah.
Et que Crazy Ex-Girlfriend, voilà, c'est une comédie musicale que je peux respecter. Alors Galavant aussi, je respectais, mais Galavant c'était autre chose, c'était un peu délirant et tout. Crazy Ex-Girlfriend, ça se passe dans notre univers. Et voilà quoi. C'était ce que m'avait promis Glee, et ce qui ouais. n'a pas été, ce qui ne m'a pas apporté Glee, parce que Glee était psychologiquement jamais crédible et ouais. ne cherchait pas à l'aide d'ailleurs, c'est juste moi qui voulais que ce soit. Et là, pour le coup, ben c'est tout le contraire quoi. Ouais. Donc j'ai fait, j'en ai longuement parlé dans les podcasts. Vous avez entendu le podcast pour dire du bien, pour en dire du mal, numéro 3, où je chante l'intégralité des chansons des 8 premiers épisodes. Donc je vais vous épargner de continuer, mais il me semble que tu as regardé entre-temps, Juliette.
Oui, ça y est, j'ai tout vu. Et c'était bien. Et ouais, c'est une super série, j'adore.
Je pense pas qu'elle va vivre longtemps. Hein. Je pense qu'elle va, elle va mourir
tu
vite. Ouais, je peux. Bah non, mais il y a presque pas d'audience, donc ils lui ont donné 5 épisodes de plus. Donc du coup, ils ont dit, bah oui, c'est sur la CW. Aux États-Unis, personne ne sait où est la CW. Hein. Et puis en plus, c'est un truc.
Oh là là, mais c'est dingue ça.
C'est une comédie musicale, ça parle d'une nana. Tout le monde a des. En fait, tout le monde a des préjugés ah, vis-à-vis de ce genre de truc. Hein.
C'est désespérant. Ah non, franchement, ça vaut vraiment le coup. Le seul truc que je reproche, mais c'est parce que je suis un peu, c'est que on peut donner, ouais, spoiler, c'est que lui malgré tout, il est, elle lui plaît, enfin tu vois, lui aussi, tu sens qu'il y a, j'aurais préféré que ce soit pas réciproque du tout.
Ça aurait été beaucoup trop facile.
Ouais.
Ce que je trouve vraiment non, ça aurait été beaucoup trop facile parce que ce qui est vraiment intéressant.
Je suis sûre que ça aurait été fait.
Non, mais alors ça, justement, ça, je pense que c'est réaliste. Je pense que c'est dans le fantasme de nous autres nanas où il y a cette idée qu'on n'est pas désirable, que quand on est folle et bizarre et machin, on n'est pas désirable. Alors que dans la réalité, on l'est quand même. C'est juste que je trouve que jouer sur ce truc de l'insécurité qui n'est pas justifiée, tu vois, le fait qu'elle ne se rend pas compte à quel point elle lui plaît,
ouais.
c'est beaucoup plus intéressant. Que de trucs, le truc classique de elle veut de lui et il veut pas d'elle, quoi. Qui ça est un truc pas éculé. Fou. Et après.
Ouais, c'est pas faux.
Putain, c'était qui me disait ça aussi sur Mindy Project avec le même truc. Mais moi, je trouve que c'est vachement rafraîchissant de montrer que. Parce qu'en fait, surtout, c'est particulièrement rafraîchissant parce que ça désamorce tout le délire comme quoi, s'il voulait de moi, tout se tirait bien. Tu vois
ouais,
si j'étais
ouais,
assez ouais. désirable. Voilà.
C'est pas faux.
Ce serait, en
non,
fait,
non, effectivement.
Ce ouais. serait le pivot narratif. Alors que là, le pivot narratif, good c'est point. Non, ma chérie, t'as besoin de régler tes problèmes à toi.
Ouais, c'est vrai.
T'as besoin de régler ta vie. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'elle dit à Josh. À Greg, justement, quand elle lui dit je suis une gamine, pourquoi est-ce que tu t'obstines avec moi, ça sert à rien, je suis pas prête à avoir une relation adulte et tout. Enfin, tu vois, elle a des fulgurances quand même. Enfin bon, et de toute façon, c'est génial qu'on parle tout de suite alors qu'il y a de la musique, c'est drôle, c'est loufoque.
Ouais, non, c'est le fond qui est.
Ouais, le fond.
J'adore la chanson C'est All For Me. Je la trouve magnifique.
Ah.
Elle est. Ouais, je sais, mais j'étais sûre que tu allais avoir ça. Ouais.
C'est
Saddle for Me. Bizarrement, je la trouve magnifique. J'arrive pas à comprendre pourquoi.
Non, mais j'adore quand je dis. J'ai pas.
Ah, t'adores, d'accord. D'accord.
Non, je fais Ah, Greg.
Ha.
En plus, je fais des claquettes. Mon Dieu. Saddle for Me. Da 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 da. Ouh, Sweet, a Gown. C'était une erreur que j'avais pas chanté dans. Pour dire du mal. Mais non, c'est. Ouais, c'est. Elle est très belle et surtout c'est très rigolo parce que à la fin de l'épisode elle lui dit quand tu m'as donné ton grand speech Settle for Me machin.
Oui, il lui a dit c'est pas comme ça que je m'en rappelais.
Ouais, et c'est rigolo parce qu'il y a vraiment le truc c'est elle est peut-être complètement psychotique cette meuf.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'elle imagine que les gens pensent et les gens se pensent et enfin c'est mais non, en fait une que j'ai pas beaucoup pris au sérieux au départ et qui quand je l'écoute je trouve génial, c'est le boys band Made of Four Joshes. Donc quand dans l'épisode 3 où t'as Josh qui se multiplie en quatre différents Josh
oui.
et qui font un numéro de boys band sur le fait on est un boys band fait que de Josh et en plus on est médicalement psychologiquement approuvé, diplômé.
Donc, oui.
On peut te conseiller psychologiquement. Génial. Ah bon, et Paula, la meilleure amie, est fantastique. Donc voilà, moi je suis heureuse d'avoir une série où je peux chanter à tue-tête Wascovina sans jamais avoir à me sentir coupable ou à penser ouais, mais c'est un peu débile quand même. Non, c'est pas débile.
Non,
c'est génial.
C'est pas débile.
C'est trop
tout.
Cool. Ouais. Ok, your turn.
Cool. Alors, c'est encore une série. Mais c'est parce que quand on était, j'ai fait un grand voyage en tout début de 2015, c'est aussi important pour mon 2015, j'étais à Los Angeles, à San Francisco, et j'ai trouvé dans
la
un...
La chance !
Yes ! Et j'ai trouvé dans un petit vendeur de vidéos, j'aurais très bien pu trouver ça en France, mais ce serait moins drôle pour l'histoire, l'intégrale de My So-Called Life, Angela 15 ans en français. Et du coup, je me suis...
Attends, excuse-moi, oui. Excuse-moi.
Angela 15
ans. T'as découvert Angela 15 ans en 2015 ?
Non, oui, non. Je l'avais vue quand j'étais jeune, mais je m'en rappelais plus. Je l'avais vue, j'étais toute petite. J'avais genre, je sais pas quand est-ce que c'est sorti,
93,
mais
94.
Gamine. Ouais,
je crois que c'est 93-94.
J'avais 8 ans, c'est ça, j'avais 8-9 ans, donc je l'avais vue à l'époque. Mais tu vois, j'en avais un souvenir que c'était une série incroyable, mais je me rappelais pas de grand-chose. Et du coup, j'ai revu My So-Called Life, et c'était trop bien.
Non, mais c'est...
Et dans l'intégrale, il y a une introduction de Joss Whedon qui écrit pourquoi Angela 15 ans, c'est trop bien.
Oh, c'est vrai ?
Ouais, ouais.
En même temps, ça ne m'étonne pas de lui.
Rien que pour ça, voilà.
Et du coup, là, David essaie de te le retirer des mains et de le voler.
Ouais.
Quoi ?
Exactement.
Je m'en doute. ok, ben j'ai envie de dire.
Mais voilà,
y a rien
il y a encore des gens dans l'audience qui. Non, c'est ça. S'il y a encore des gens dans l'audience qui n'ont jamais vu My So-Called Life, ça vaut vraiment le coup.
Il y a 18 épisodes en plus, donc c'est rapide.
C'est ça.
Ça finit un peu en cliffhanger. Dommage.
Ouais.
Mais c'est pas grave.
Mais c'est beau comme série. C'est une série sur l'adolescence.
Mais c'est une série sur l'adolescence. Enfin, c'est une série qui a révolutionné la façon dont on écrivait les adolescents à la télévision.
Ouais.
Où tout d'un coup, c'était plus juste. On est sorti de Beverly Hills, où c'était des excuses pour parler des problèmes sociaux du lycée. Où à chaque épisode, cet épisode, on va parler de la sexualité. Ah, cet épisode, on va parler de la violence. cet épisode, on va parler de l'alcoolisme chez les adolescents. Et tout d'un coup, il y avait une vraie adolescente avec des parents qui n'étaient pas complètement débiles, mais qui avaient leurs problèmes. Et une petite sœur qui est un peu chiante, mais qui, en fait, a aussi son univers à elle. Il y a un épisode, notamment, qui est de sa perspective, qui est assez génial. C'est vraiment une série qui, tout d'un coup, a changé la façon dont on pensait pouvoir écrire les séries familiales.
Ouais. Ah tiens, d'ailleurs, il y a l'épisode de Noël de
Absolument.
La série
avec un
incroyable.
Ange.
C'est ça, il est magnifique cet épisode.
Donc voilà.
Avec un ange et une. C'est ça, elle croit que c'est une gamine SDF qu'elle croise dans la rue et donc elle essaye d'aider cette gamine pendant tout l'épisode et à la fin on se rend compte que c'est un ange et elle disparaît.
Donc ne regardez pas l'épisode, on vient de vous spoiler.
Voilà, en fait on vient de vous le spoiler.
C'est horrible. Attention, podcast spécial spoiler. J'avais fait un spoiler, mais non, le prochain n'est pas un spoiler. Donc c'est mon tour et je veux dire que moi, ce que j'aimais en 2015, c'est quelque chose que j'aimais déjà en 2014, mais qui m'a accompagnée toute l'année. C'est, attention, es-tu prête ? Taylor Swift. Donc pour ceux qui me connaissent, vous le savez, parce que j'écoute Taylor Swift toute la journée, j'écoute énormément de musique, de plein de styles différents, mais j'avoue que cette jeune Taylor m'a vraiment... m'a poursuivie, parce que son album de l'année dernière m'a beaucoup plu, que déjà j'étais intéressée, mais qu'en fait, du coup, j'ai passé l'année à écouter tous les anciens albums. Et qu'en fait, plus on écoute Taylor Swift, plus on oublie ce qui est rébarbatif pour beaucoup, c'est-à-dire le côté soit hyper pop, soit hyper country... Très gentille mélodie, petite fille et compagnie, qui sont un peu l'image qu'on a d'elle. Et c'est vrai que plus on l'écoute, plus on entend les paroles, plus on entend ce qu'elle dit vraiment, plus on apprend à la connaître, et plus en fait, c'est d'une profondeur et d'une justesse sur la condition humaine assez désarmante. Et du coup, c'est un plaisir continu et constant et de plus en plus présent d'écouter Taylor Swift. Donc voilà, 2015 restera l'année où je l'ai écouté tout le temps.
Cool.
Mais après, j'écoute plein de trucs cool aussi. Non, mais ça paraît vraiment pas cool d'écouter Taylor Swift parce que à la fois avant c'était pas cool parce que c'était un truc de petite de gamine et maintenant c'est pas cool parce qu'elle a trop de succès. Alors en France moins, ouais. C'est plus dans un contexte américain bien sûr parce que finalement elle a pas encore vraiment percé en France, mais ce qui est pas étonnant parce que en fait c'est surtout ses paroles qui font la différence. Et c'est vrai que quand tu comprends pas ce qu'elle dit, ben t'entends que le reste quoi. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir Taylor Swift dans ma vie. Et d'ailleurs, je sais que toi, tu es propice, tu es à même d'être contaminée. Donc je vais faire ce que je peux en 2016 pour le faire. Sachant qu'en 2015, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cet événement génial où Ryan Adams, qui pour le coup est un chanteur reconnu chez les gens qui font de la musique indé, bien que d'autres disent que c'est trop mélodique et commercial ce qu'il fait, c'est trop pop, passons. Il a quand même un peu de crédibilité avec les indés et il a quand même il a passé son été à réenregistrer toutes les chansons du dernier album de Taylor Swift à sa sauce. Donc je sais pas si tu as entendu 1989 version Ryan Adams.
Non.
Donc je sais pas si on a entendu parler, mais en fait quand c'est sorti, c'était hallucinant parce que ça a explosé les scores de vente. Et surtout, il y a eu des critiques dithyrambiques partout. Et ce qui était génial, c'était que beaucoup, notamment lui, disaient l'album est bon parce que j'adore ce que fait Taylor Swift et parce que ces chansons sont tellement solides musicalement qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut avec. Parce que c'est écrit parfaitement, c'est très bien construit, c'est très mélodique. Et du coup, effectivement, on a des versions acoustiques indé de toutes les chansons de l'album 1989. Moi, j'aime bien écouter les deux en même temps. Tu vois, la version Taylor Swift, la version Ryan Adams, la version Taylor Swift, la version Ryan Adams. Out of the Woods, et je l'avais mis sur la compile que j'ai fait après les attaques sur Fearless Paris.
Ah oui.
Il y a Out of the Woods. D'ailleurs, il y a trois chansons de Taylor Swift sur Fearless Paris. Il y a une chanson, je suis désolée mais c'est normal dans les moments de, il y a la chanson qu'elle a fait pour Hunger Games avec les Civil Wars qui est géniale, il y a une version acoustique par un couple de Shake It Off, Shake It Off, Shake It Off, qui est en fait une chanson aussi d'une profondeur insoupçonnable dont tu te rends compte quand tu écoutes les versions acoustiques. Tout d'un coup, ça prend toute une dimension ce qu'elle dit et tu fais. C'est, en fait, il y a tout un truc aussi sur l'autosuggestion, sur non, je vais pas me laisser détruire par quelque chose. I'm gonna shake it off. Parce que de toute façon, je peux rien y changer, parce que je peux pas faire en sorte que les gens arrêtent d'essayer de me faire du mal. Donc. Ou même de moi-même de m'autodétruire. Donc tout ce que je vais faire, c'est essayer de passer à autre chose, c'est d'avancer, c'est essayer de continuer. I stay up too late, nothing in my brain. That's what people say, that's what people say. I go on too many days, I can make them stay. That's what people say. That's what people say. I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind, so it's gonna be alright. Cause the prayer's gonna play, and the haters gonna hate. Baby, I'm just gonna shake, shake it off. Heartbreak is gonna break, and the fake is gonna fade. Baby, I'm just gonna shake. Et c'est vachement fort, quoi. Et Out of the Woods, version Ryan Adams. Donc voilà, donc Taylor Swift 2015. I love you, Taylor. Donc voilà, et toi?
On en est au 5. J'ai pas vraiment de 5, en fait, moi. Musique, ça me fait penser que ce que j'ai. Pas forcément plus écouté. Tu sais que moi, j'écoute peu de musique. Je fais partie de ces ovnis bizarres qui écoutent peu de musique.
Qui aiment la musique, mais en écoutent peu.
C'est ça. Que... J'adore la musique, mais il faut vraiment que je sois dans un état particulier et que la musique corresponde à cet état pour la recevoir mieux. Mais j'ai découvert un groupe que j'adore qui s'appelle Shepard. Je ne sais pas si tu connais.
Non.
Ça s'écrit S-H-E-2-P-A-R-D. Notamment la chanson Geronimo, et c'est je pense pas que ce soit très Enfin, tu vois, c'est vraiment un groupe qui, c'est des chansons qui te mettent de bonne humeur. C'est musicalement très très très, c'est entraînant et c'est, je sais pas, ça fait du bien d'écouter, je sais pas.
Voilà. Mais moi, ça fait du bien d'écouter Taylor Swift. Hein. Moi, je suis pour la musique qui fait du bien d'écouter. Hein.
Oui. Après, non, moi, j'entends bien. Mais je veux dire, je suis pas sûre qu'il y ait, par contre, de. Que les paroles. Enfin, ceci, j'ai pas beaucoup étudié la question, mais je crois pas que les paroles soient très profondes. Mais c'est un groupe qui mérite d'être connu.
Du coup, je suis en train de réaliser que j'ai un autre numéro 5, mais je voulais quand même oublier de préciser que mon artiste préféré de 2015, nouvel artiste, c'était Courtney Barnett. Juste pour dire que Taylor Swift, mais aussi Courtney Barnett, il faut savoir que Courtney Barnett, c'est une rockeuse lesbienne australienne, donc c'est brune en plus. Donc le contraire de Taylor Swift. Et en même temps, c'est aussi, elle a ça en commun avec Taylor, c'est-à-dire qu'elles écrivent des paroles absolument géniales. C'est très simple ce qu'écrit Taylor. Les textes ont l'air simples, mais il y a une profondeur dedans. Courtney Barnett, c'est beaucoup plus... Il y a un côté presque absurde dans sa façon de raconter des histoires dans les paroles de ses chansons. C'est assez génial. Et elle a toute une chanson sur son dernier album sur... la recherche d'un appartement avec sa meuf. C'est génial. Et c'est juste, elle décrit, genre, à un moment, elle dit, je peux plus voir du parquet, ça... j'en ai ras la casquette. Enfin, des trucs complètement anodins du quotidien, et en même temps, c'est une super chanson. Donc, voilà, Courtney Barnett, c'est l'autre, c'était l'autre coup de cœur. Mais c'était pas mon numéro 5, donc je viens totalement de tricher. Mon numéro 5, c'est Inside Out. C'est Vice Versa, de Pixar. Qui est un tel chef-d'œuvre, qui est une telle révolution. Enfin, tu vois, c'est moi, je pense, mais à tout ce que ça peut apporter d'avoir vu ce film, tout ce que ça peut apporter de réconfort personnel et de compréhension de soi-même et d'acceptation de soi-même et de ses états parfois tristes et parfois difficiles et de ce que ça dit sur qui nous sommes et comment nous fonctionnons. C'est tellement intelligent, ce film. Et puis c'est drôle, et puis c'est beau, et puis j'ai pleuré, et puis j'ai ri, et j'ai envie de le revoir 50 000 fois. J'ai vu 3 fois au cinéma. Enfin voilà, c'est un tel cadeau que je suis extrêmement reconnaissante qu'il existe.
Ouais, je te suis complètement. J'ai... Gros coup de cœur aussi pour moi.
Je me rappelle, je t'en ai parlé, je t'ai dit d'aller le voir avant que tu...
Ouais.
Tu devais partir en vacances et je t'ai dit, va le voir. Et je t'ai dit, tu regretteras de ne pas l'avoir vu au cinéma.
C'est vrai. Et c'était trop bien.
Et puis c'est ce que je trouve incroyable, enfin il y a des tonnes de trucs que je trouve incroyables dans ce film, mais il y a le côté de prendre quelque chose de très simple, qui est ce petit traumatisme dans la vie de cet enfant, et en fait, de le traiter avec tellement de justesse que ça devient universel, parce que ça peut en fait s'appliquer à tous les troubles et traumatismes, et notamment à la dépression chronique, en fait. Enfin, c'est une parfaite illustration de ce qu'est la vraie dépression. Et
ouais,
c'est tellement rare. En fait, je suis en train d'essayer de regarder la fin de You're the Worst saison 2 que j'ai pas vue parce que je la regarde pas toute seule, et du coup, j'ai pas eu l'occasion de voir la deuxième moitié de la saison, mais apparemment, c'est ce dont parle la saison 2.
D'accord.
La dépression est apparemment de façon très très belle, parce qu'il y a des tonnes de trucs qui ont été écrits dessus que j'ai pas lu, bien sûr, parce que je veux pas être spoilée, mais j'ai quand même cru comprendre que c'était ça. Et c'est tellement difficile d'en parler, c'est tellement rare qu'on en parle bien. Et surtout cette idée incroyable que, quand t'es dépressif, tout d'un coup tu sais plus où est ta joie et ta peine. Tu retrouves que le dégoût, la peur et la colère.
Ouais.
C'est magique.
Ah, c'est beau. C'est beau.
Ouais. Alors, moi, je rêve d'avoir les 5 peluches dans mon lit.
Ça me donne envie de le revoir.
Bah, tu m'étonnes. Mais de toute façon, d'ailleurs, si je vais te dire en toute honnêteté, le 25 décembre, c'est ça qu'on regarde. Hein. Chez moi, dans ma fête de Noël, qui est une fête de Noël famille recomposée, on va regarder Inside Out.
Ah, c'est vrai ça. Faudrait que je le trouve et qu'on fasse ça.
Parce que c'est.
Ouais, c'est une super bonne idée. Mmh.
Je sais. Mais bon, pour ce, je suis désolée pour ceux qui nous écoutent et qui ont déjà passé Noël et qui pourront juste le faire l'année prochaine.
Ouais, c'est
on
vrai.
Vous conseille de faire l'année prochaine. En même temps, vous n'êtes pas déjà le DVD, donc vous n'avez peut-être pas encore le DVD, donc c'est peut-être mieux. On va s'arrêter là parce que sinon on peut parler 5 heures et ça fait déjà 5 heures qu'on parle.
C'est ça.
J'exagère, mais presque. Je voudrais te remercier, Juliette, pour cette conversation qui était encore plus bordélique que d'habitude.
Mais je t'en prie.
Surtout, c'est dans 5 premières minutes qu'on a parlé de souvenirs d'enfance. Rien à voir. J'espère que ça vous a passionné. Nous sommes par contre toujours friands de vos commentaires, de vos retours, même pour nous dire qu'on vous a saoulé. Parlez-nous, dites-nous ce que vous pensez de ce qu'on dit, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on a oublié d'évoquer. Merci à toi, Juliette, pour si bien t'occuper du site et du podcast. J'ai essayé désespérément de mettre un podcast en ligne dans ton absence et je n'ai jamais réussi, donc... Sans toi, je ne serais rien. Je remercie aussi A Virtual Friend pour la chanson Paris la nuit que nous utilisons comme générique. N'oubliez pas d'aller sur Spotify et écouter ma playlist de Noël. Ça va, même si Noël est passé, c'est pas grave. C'est pour toutes les fêtes, c'est sympa. Et on espère que vous aurez ce podcast avant le jour de l'an. Et merci au Daily Mars de parler nous de temps en temps parce que ça nous ramène des oreilles. Et surtout, les commentaires sur Facebook. Mais sur le site aussi, c'est possible. Et sur iTunes, c'est possible. Les gars, allez-y, lâchez-vous. C'est le seul cadeau de Noël que nous voulions. Et je vais finir par dire que moi, un des trucs pop culture qui me fait le plus plaisir en 2015, c'est de pouvoir parler pop culture sur un podcast. Donc, c'est trop cool.
C'est
complètement égocentré. Mais voilà. Pour te retrouver sur Twitter, Juliette, tu peux rappeler ton adresse ?
At Juliette Dodd, Juliette de T-E, Dodd, D-O-D.
Et moi c'est Atielka, Y-A-E-L-K-A. On vous souhaite d'excellentes fins de fête. On espère que vous allez passer un super jour de l'an à regarder plein de films dépressifs comme moi. Et surtout, on vous retrouve en 2016. On vous embrasse, ciao.
À l'année prochaine.
Ma mère m'a envoyé un SMS sur le foie gras, c'est important. Non, parce que la question c'est on l'a trouvé ou pas le foie gras. Bon, passons. Attends, excuse-moi, on continue à m'envoyer des SMS sur le foie gras que je ne comprends pas. Qui a trouvé le foie gras? Je comprends pas.
Quelqu'un a trouvé le foie gras! Alerte, alerte!
Ça, voilà, on a trouvé notre bonus de fin de podcast! c'est... Attends, mais qu'est-ce qu'elle écrit? Qu'est-ce qu'elle écrit, l'autre? L'autre étant ma mère, bien sûr.
Bien sûr.
Qui, je l'espère, n'aura pas le courage d'écouter ce podcast. Tu as trouvé le foie gras et gagné la loterie. Non, mais attends, mais...
Dans la mesure où elle est dans la pièce d'à côté, je pense qu'à un moment, tu vas avoir l'information.
Attends, je pense que c'est parce que... En fait, il a envoyé un message, il a écrit « Acheter le foie gras ».
Ah, alors il faut acheter le foie gras.
Non, non, mais... qui a été compris par « j'ai acheté le foie gras
».
Alors qu'en fait, c'était « achète le foie gras ». Parce que Marine a répondu « hein, tu as trouvé le foie gras et gagné la loterie ?»
Au secours.